L'esprit critique. Mediapart.
Deux récits et un ouvrage théorique. L'esprit critique de ce jour s'intéresse aux littératures du réel. Que désigne-t-elle? Que produisent-elles? Quelle place occupe-t-elle dans le champ éditorial contemporain? Pour aborder ces vastes questions, pas complètement inédites, mais qui se reconfigurent, on s'ancre sur trois ouvrages. D'abord, Le Convoi, publié chez Flammarion, de Beata Umumbieyi-Meres, dans lequel l'écrivaine fait le récit de comment elle fut sauvée du génocide des Tutsis au Rwanda, qui eut lieu voilà 30 ans. Ensuite, Là où la terre ne vaut rien, un récit de Ted Conover, situé dans une vallée du Colorado, que publient les éditions du Sous-Sol. Et enfin, Le Troisième Continent ou la littérature du réel, signé de l'historien et écrivain Yvan Jablonka. Pour en discuter aujourd'hui, Lise Wajman, professeure de littérature comparée, qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, et Blandine Rinkel, écrivaine, critique et musicienne. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Le Convoi est le 7e livre de l'écrivaine Beata Umumbieyi-Meres. Il est le premier publié aux éditions Flammarion. Il est surtout le premier à quitter le domaine de la fiction pour faire un récit de la manière dont elle a échappé, encore adolescente, au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Beata Umumbieyi-Meres est née à Butare, la seconde ville du Rwanda, située non loin du Burundi à la fin des années 70, et a réussi à échapper aux tueurs grâce à un convoi de l'organisation humanitaire suisse Terre des Hommes alors qu'elle avait 15 ans. C'est depuis cette position de rescapée et de rescapée privilégiée, comme elle l'écrit, qu'elle enquête sur ce convoi et les rares images qui en ont été faites après, je la cite, 15 ans de cheminement incertain et une enquête menée aux confins de mémoires étiolées. Alors pour cela, l'écrivaine mêle un récit de ses souvenirs à une véritable enquête archivistique et journalistique sur les photos et les images qui ont pu être faites de ce convoi et d'elle-même dans ce convoi. Est-ce que cet entrecroisement lui permet, Lise Wajman, de raconter cette histoire du génocide des Tutsis comme on ne l'avait pas vraiment lu jusqu'ici ?
Oui, on peut se demander si, comme il y a maintenant des classiques de la Shoah, formule qu'évidemment je ne reprends pas à mon compte, mais qu'on peut trouver en couverture sur certains récits de rescapés, ce livre, Le Convoi, ne fera pas lui aussi partie des classiques du génocide Tutsi. Elle cite en exergue un extrait de L'image manquante de Riti Pan, un documentaire sur le génocide commis par les Khmers rouges. Et on voit bien que ça ouvre vraiment, ça formalise ce qu'elle veut faire avec ce livre, c'est-à-dire à la fois dessiner, inscrire son récit dans une communauté des récits de rescapés. Elle renvoie beaucoup à l'histoire de la Shoah, elle renvoie aussi au génocide arménien. Mais c'est aussi le centre de ce livre, c'est bien la question de l'image manquante, c'est-à-dire il manque une image d'elle-même, puisqu'elle veut retrouver, et c'est l'objet de sa quête, elle veut retrouver des photos du convoi qu'il a sauvé, qu'il avait fait passer le 18 juin 1994, du Rwanda où elle se cachait avec sa mère, au Burundi, d'où elle fut ensuite envoyée en France. Et cette image est particulièrement manquante parce qu'elle est cachée avec sa mère dans le camion qui les transporte. C'est un convoi réservé aux enfants de moins de 12 ans, en vertu de cette folie qui fait qu'une logique administrative comptable prétend s'imposer en guise de prétendue raison dans des moments où la folie meurtrière a tout envahi. Et donc c'est ça qui va guider le tissage entre son histoire individuelle, le fait de réinscrire cette histoire dans plus largement dans l'histoire du génocide, et puis aussi la tentative de retrouver d'autres de ses enfants qui figuraient sur les photos.
Sur cela, Blandine Rinkel, et peut-être sur le fait que cette image, elle est manquante, mais elle est doublement manquante, c'est-à-dire qu'il s'agit de retrouver l'image elle-même, et notamment parce qu'il y avait des caméramans de la BBC qui étaient présents dans le convoi, mais aussi parce que très vite, il s'agit de s'approprier une image, enfin, ou de créer par l'écriture une image qui ne soit pas une image prise par les Occidentaux. Est-ce que c'est d'emblée un geste? Alors, c'est pas tellement parce que ça ne situe pas sur un plan revanchard, mais un geste de reprise. Est-ce qu'il est abouti pour vous, Blandine Rinkel, ce geste d'aller chercher non seulement l'image elle-même, mais au fond, une image qui, si elle était prise par les Occidentaux, permet aussi de déployer un récit qui soit un récit approprié par les rescapés eux-mêmes?
Je n'oserais dire si elle est réussie ou non. Elle m'a saisie, elle m'a touchée. J'ai eu accès à. Oui, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une indifférence qui était brisée, ne serait-ce que la mienne. Je pense que j'ai mesuré que les mots rescapés, c'est. Enfin, elle dit quand elle arrive, c'est intéressant la manière dont elle change d'instance narrative au début de son récit. Elle dit qu'elle arrive... Elle parle d'abord au jeu. Et puis soudain, elle parle d'elle-même à la troisième personne. Et elle se montre comme une jeune femme qui arrive, une adolescence extirpée de l'enfance par la violence des hommes, passe une frontière, je la cite là, grâce à une opération de sauvetage menée par des humanitaires.
Et elle dit « je dois retrouver celle que j'étais à 15 ans ».
Voilà, et donc elle montre d'abord sa dissociation et la manière dont elle se voit devenir autre chose qu'un jeu à 15 ans. Elle montre ça et elle montre que c'est aussi une distance dans la langue. Soudain, elle parle d'elle-même avec voilà, le mot « rescapé », elle emploie enfin, « génocide »,« revenante »,« survivante ». Enfin, et c'est des mots qui témoignent d'un regard comme objectif sur sa condition, mais pas en fait subjectif, quoi. Comme si le « je » avait été retiré, mangé par, par l'expérience. Et ça, je n'y avais pas pensé. J'ai eu besoin de lire ce livre pour comprendre que ça pouvait faire ça, quoi. En fait, ce qui m'a saisie, pour le dire un peu autrement, c'est sa solitude, son endroit de solitude absolue. Parce que donc, elle arrive à 15 ans dans le nord de la France. Elle n'a jamais mis en récit le convoi de son départ. Et elle va continuer une vie de jeune adolescente... conforme, enfin, une jeune adolescente recueillie par des Français qui mène une vie française, jeune adolescente, quoi. Et elle sait quelque chose dont elle ne dit rien, dont elle ne montre rien, parce qu'il y a cette image manquante, mais il y a aussi un récit, il y a aussi un « je » manquant. Et elle dit donc, que plus tard, elle va se mettre à chercher des récits, des photos, et qu'à un moment, elle attend une photo d'un photographe qui tarde à lui la donner, parce qu'il a d'autres choses, il fait d'autres choses dans sa vie. Et ce qui est si important pour elle et pour les autres rescapés du Rwanda paraît un détail d'archive en fait pour d'autres. Et donc là je la cite, les gens auxquels je m'adresse ne semblent pas saisir à quel point chaque piste fait naître en moi une grande attente, celle de trouver cette image manquante. Ils ont leur vie, leurs problèmes, d'autres priorités. Pourquoi ne comprennent-ils pas mon impatience, eux qui pourtant étaient sur place, eux qui savent ce que nous avons traversé. Et au-delà de la solitude qui me touche, ou peut-être comment est-ce que cette solitude s'exprime dans le texte, il me semble qu'elle s'exprime aussi par le ton extrêmement calme, extrêmement patient qu'elle emprunte pour nous raconter cette histoire. On pourrait s'attendre à plus de colère devant l'indifférence des Français, des autres puissances occidentales à ce moment-là. Et en fait, c'est sans doute qu'il y a quand même une colère, mais elle est comme matinée de solitude et de la conscience qu'elle a qu'on ne va sans doute pas l'entendre, qu'on va sans doute pas l'écouter. Et ça, dans ce ton-là, dans le texte, moi, m'a paru inédit. Je ne l'avais pas lu comme ça, en tous les cas, concernant le génocide des Tutsis.
C'est peut-être le moment qu'on entend, et c'est vous qui vous en chargez, Lise Wagemann.
J'avais imaginé que pour ce livre, j'allais me débarrasser du vêtement de romancière pour n'être qu'un témoin au même titre que les autres. Je ne voulais pas faire de la littérature avec notre histoire, mais je ne cesse de me demander s'il ne faudra pas que je cède à cette nécessité. Car si je me contente d'une narration linéaire, si je me cantonne au récit de ce qui nous est arrivé d'avril à juin 1994, personne ne saura rien de ce que le temps fait au passé. Il l'amplifie, l'érode ou l'effrite en fragments, en cailloux qui sont dispersés ou restent immobiles, perdus au bord du chemin, mais que l'on peut retrouver quand vient le temps du récit. Alors le vieux et le neuf, la vie d'hier et celle d'après, entrent en résonance et font sens. Les fragments sont assemblés en une mosaïque qui dit plus que le convoi du 18 juin. Ce n'est que si je raconte la quête de 15 ans qui m'a amené sur le sentier sinueux des mémoires éparpillées, entre le Rwanda, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, la France et l'Afrique du Sud, que l'on saisira le vertige que porte cette survie-là, le sens de cette journée particulière.
Comment est-ce que vous entendez justement cette idée qu'elle ne voulait pas faire de la littérature, et est-ce qu'elle fait de la littérature avec ce qu'on voit, Lise Wagemann, pour vous ?
Alors,
on sent, juste pour préciser, que juste avant, dans le passage que vous avez lu, elle raconte, parce qu'en fait elle a déjà raconté un peu cette histoire, mais sous la forme de la fiction, du coup en estimant que ce n'est pas du tout la même chose, et elle s'est confrontée à quelque chose, du coup ça s'inscrit dedans, qu'elle a senti que les fictions africaines sont souvent considérées comme des traités d'ethnographie. Et donc il y a une volonté, je pense, de s'arracher à l'exotisme avec lequel ces livres ont pu être reçus. Mais là, c'est un peu étrange la manière dont elle se raccroche à l'idée de faire de la littérature au moment même où elle s'engage dans ce qui est en couverture, c'est-à-dire un récit, et dans une enquête qui relève de l'histoire ou du journalisme.
Alors, c'est à la fois une question qu'on ne peut pas ne pas se poser et une question qu'on est obligé de récuser. C'est-à-dire que, évidemment, de toute façon, avoir un jugement esthétique sur un récit qui est le récit écrit en première personne par quelqu'un qui a survécu à un génocide, il y a quelque chose de quasiment impossible pour moi en tant que lectrice, hein, d'une part. Et puis, d'autre part, j'ai l'impression que la solution qu'elle formule, et quand elle la formule, elle est vraiment très belle, c'est qu'en fait, ça passe par l'appropriation de la langue. Alors, de fait, c'est écrit dans une langue extrêmement raffinée, enfin, vraiment presque ouvragée. Et il y a un moment où elle explique qu'en fait, ce choix d'écrire en français, la langue française elle-même, c'est ce qui l'a sauvée. Et alors là, c'est bouleversant, en fait. Je crois qu'on peut le raconter sans divulgâcher le récit, parce que, enfin, heureusement, elle est survivante, hein, donc... Donc, ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, face aux bourreaux, elle s'est adressée à eux en français, en feignant de ne pas comprendre le Kinyarwanda, qui est sa langue maternelle, et elle s'est servie de la langue française, je la cite, comme d'un bouclier dont elle s'est servie pour éloigner les tueurs.
En disant « je suis française », ouais. Sachant qu'elle est métisse d'un père occidental et que donc elle passe pour blanche aux yeux éventuellement des tueurs.
Des tueurs, voilà. Et donc, on comprend qu'en fait... Il y a des pages ensuite sur la difficulté à nommer, le fait que la langue peut vite s'épuiser, qu'il faut trouver des façons de nommer qui soient pertinentes pour rendre compte de l'expérience qu'elle a vécue. Et on comprend que ça va passer vraiment. Ensuite, elle a fait des études longues, approfondies. Elle a un rapport très intime, très travaillé à cette langue française.
Oui, et puis elle s'inquiète, me semble-t-il, de ne pas se payer de mots. Enfin, elle traque ses propres complaisances. Assez souvent, enfin je la cite, j'écris les mots comme ils me sont venus devant cette classe, je vais tenter de livrer un récit brut, quoique je sois consciente qu'il puisse être poli par un début d'habitude, par une langue d'écrivaine. En ça, j'ai un peu pensé à Triste Tigre, au fait paradoxal que quand on vit quelque chose de particulièrement âpre et potentiellement inaudible par l'autre, pas indicible mais inaudible, elle insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que c'est pas là le problème de le dire, c'est le problème d'être entendu ou d'être écouté. On devient particulièrement exigeant vis-à-vis de sa propre langue. Et c'est paradoxal, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une tolérance plus grande. Et au contraire, quoi, elle se traque elle-même. Et donc ça, j'ai trouvé ça aussi très touchant.
Parce que moi, ce qui m'a assez saisi dans la spécificité et sans doute la puissance du ton, justement, c'est que elle se tient quand même à distance d'une dialectique qui est souvent présente dans les récits de génocide, c'est-à-dire les bourreaux et les victimes.
Mmh.
On n'entend pas
elle
vraiment...
Dit que les bourreaux, ça ne l'intéresse pas.
Les bourreaux, ça ne l'intéresse pas. Et les victimes, au fond, comme elle est rescapée, elle en parle, mais un peu plus. Et j'étais assez frappé, moi, par une phrase où elle écrit « Les récits croisés des rescapés ont aussi révélé que souvent, des hommes qui cachaient des proches, famille ou amis, dans leur maison, allaient également tuer sur une barrière non loin de là pour ne pas éveiller les soupçons. C'est pourquoi il y a eu assez peu de justes, finalement, de gens qui ont tenu leur ligne de bonté tout du long, qui ont refusé de participer au massacre du début à la fin. » On a l'impression qu'il y a quand même un truc particulier dans le fait de se situer très loin de toute question de morale dans ce récit, non ?
Oui, c'est vrai, d'autant qu'elle rappelle que celui qu'elle considère comme son sauveur, qui travaillait pour une ONG suisse, a lui-même ensuite été convoqué au procès d'un génocidaire notoire dont il a rappelé qu'il avait pu protéger certains enfants tutsis, donc au profit de sa défense. Donc, en fait, elle est plongée dans la complexité morale et juridique de l'a posteriori, quoi. Et du coup, elle est extrêmement prudente à cet égard. Je voudrais quand même juste dire un mot, qui est que c'est quand même difficile de parler de ce livre aujourd'hui, donc écrit 30 ans après, sans se demander quel récit nous lirons bientôt de ce qui est en train de se dérouler en ce moment même. C'est-à-dire que quand même, on lit là, voilà, le récit d'une tuerie de masse de la fin du XXe siècle, et en ce moment même, des dizaines de milliers de morts en Palestine, des morts qui sont encore à venir, et une fois encore... Les grandes puissances mondiales détournent le regard, imposent un aveuglement volontaire auquel on ne résiste que difficilement. Et il y a quand même un effet aussi de résonance au présent pour nous. L'image manquante, on la vit au quotidien aussi aujourd'hui.
Oui, on peut du coup finir sur cette phrase, parce que tout en déniant l'idée que le Rwanda au printemps 94 aurait été le territoire d'un génocide diffusé en direct à la télévision, comme on l'a dit, elle écrit « Le monde s'est contenté de nous regarder mourir sur du papier glacé à la télé ». Ça rappelle la phrase de Jean d'Ormesson dans Le Figaro à propos du Rwanda qui parlait de massacres grandioses dans des paysages sublimes. Donc, effectivement, ce livre arrive chargé d'un présent, mais il est aussi un récit impressionnant sur le passé. Le Convoi, signé Beata Umumbiei-Meres, s'est publié aux éditions Flammarion.
L'esprit critique. Mediapart.
Ted Conover est un écrivain américain spécialiste de ce qu'on désigne parfois par le journalisme d'infiltration. Après des études d'anthropologie, il s'était fait connaître en traversant l'Amérique en train à la manière des hobos, ces travailleurs sans domicile fixe naviguant d'un train de marchandises à un autre, en publiant un livre intitulé « Au fil du rail », devenu un classique de cette littérature. Il s'était fait ensuite passer pour un clandestin pour approcher la vie des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec son ouvrage « Les Coyotes », puis avait passé une année dans Sing Sing, la prison la plus célèbre des États-Unis. Cette fois, Ted Conover s'est rendu à partir de 2017 dans la vallée de San Luis, dans le Colorado, où vivent des personnes marginales, débranchées des réseaux et des infrastructures. Il en tire un récit intitulé « Là où la terre ne vaut rien », publié aux éditions du Sous-sol et traduit par Anatole Ponce-Remaud. Alors, Blandine Rinkel, que diriez-vous de cette écriture, est-ce qu'il faut l'appeler d'immersion, puisque Ted Conover en vient même à acheter une terre dans cette vallée pour vivre à peu près comme les personnages qu'il rencontre, tout étant peut-être dans cet à peu près, dans la mesure où il bénéficie par ailleurs d'un emploi, d'un salaire et d'une vie à New York qui fait qu'il ne sera jamais tout à fait comme les personnes qu'il voit et interroge.
Oui, bah, la particularité de son entreprise dans ce livre, c'est quand même qu'il enquête auprès de gens qui ont vraiment la haine des journalistes. C'est quand même un geste étonnant, quoi. Il va dans des zones où il doit quand même signer des décharges pour confirmer qu'il n'est pas un journaliste. Quelque chose de risqué et d'étonnant. Enfin, il opère un déplacement. Et ça m'a saisi, moi, tout le long du livre, son inconfort en effet relatif, mais il toujours un pas de côté, il se met en inconfort, quoi. Et donc, il navigue quand même dans les imprévus.
Ça, j'entends bien trop dire, il ne se présente pas comme journaliste, il se présente comme appartenant à enfin, il est bénévole dans une association d'aide.
Oui, 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 La Puente. Et donc, il navigue dans les imprévus, là, il dort dans une caravane en se disant, mais la caravane s'envolera-t-elle? Est-ce qu'il se fera tirer dessus? Parce que là-bas, tout le monde détient des armes. Est-ce que ce Angelo, un habitant des plaines, qui s'échine à dire qu'il veut affronter les ours, se fera tuer pendant voilà, sa présence là-bas? Enfin, il y a quand même plein de questions, d'imprévus. Il est hésitant, quoi, dans sa présence sur cette terre. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, audacieux. Et on voit par là quand même qu'il a un vrai sens de l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire pas l'autre qu'on voudrait ramener pour qu'il soit le même, mais vraiment une curiosité de qui est celui qui ne nous ressemble pas. Et moi, ça fait très longtemps quand même que Ted Conover a cette curiosité-là. Moi, j'avais retenu de lui, donc je crois que c'était une interview dans la revue Feuilleton. Revue finie désormais.
Oui, là, on parle du passé.
Où il disait qu'il avait la sensation, il le disait en toute humilité, hein, mais qu'il avait la sensation parfois en parlant à des gens très différents d'activer une forme de vie démocratique. Et que c'était aussi en ayant cette mission-là en tête qu'il... Cette mission, le mot mission est peut-être un peu grand, mais voilà, en ayant ça en tête qu'il faisait ses reportages, mais aussi que dans la vie, il s'échinait à parler avec des gens avec qui c'est vraiment pas évident du tout de parler. Il dit d'ailleurs, je crois que c'est dans ce livre, hein, il dit qu'il cite le producteur de radio... Davisset, je crois que c'est dans ce livre. Il est de notre devoir patriotique de voir de l'humanité chez les personnes avec qui nous sommes profondément en désaccord. Donc ce geste inévident, je l'ai trouvé très intéressant dans le livre.
Lise Wajmann, et notamment sur quelle morale de l'écriture cela enclenche, parce qu'on est à la fois effectivement quand même une galerie de personnages assez incroyable, hein, on va peut-être en évoquer quelques-uns, mais on commence en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il produit et comment il le fait, puisque donc il s'abrite derrière une entité dont on sent qu'il ne la révèle pas. Des fois, il montre la distance qu'il entretient avec les gens qu'il peut rencontrer. Des fois, il essaye au contraire de la réduire. Voilà, comment vous avez senti le point d'écriture où il se situait?
Oui, alors moi, je dois dire que j'étais un peu dubitative face au livre. J'ai un peu de mal à croire que, en effet, cet homme qui a pratiqué une écriture embarquée, hein, avec succès, enfin, de manière assez incroyable pour ses livres précédents, j'ai un peu du mal à croire qu'il rêve vraiment, alors qu'il est par ailleurs professeur à New York, de vivre la vie de ces désespérés du fin fond de l'Amérique. Il y a quelque chose pour moi dans le geste, dans l'empathie de départ qu'il nous propose, qui ne m'allait pas complètement. lui-même...
En même temps, il ne dit pas vraiment qu'il le rêve.
Il
veut le partager.
Il veut sa clôture.
Ouais.
Lui aussi,
oui,
il a
envie de ce
territoire.
Des paysages auxquels il ne s'attendait pas.
J'étais un tout petit peu sceptique sur... Mais ça lui donne en tout cas l'occasion de vivre plusieurs fois par an, plusieurs mois d'affilée, plusieurs années de suite, auprès de ces gens. Et ça, c'est un vrai geste de rencontre qu'il théorise en disant... À plusieurs reprises, hein, il rappelle qu'en gros, son principe, c'est qu'il faut regarder les périphéries pour comprendre le centre, ce qui est un vieux principe foucaldien par ailleurs.
Et là, c'est la périphérie des périphéries.
Là, c'est la périphérie des périphéries, puisqu'il faut quand même être clair, hein, il va voir des gens qui se sont achetés un petit morceau de terrain au fin fond du Colorado pour vivre une vie qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire déconnecté du réseau, déconnecté de presque tous les réseaux, c'est-à-dire sans gaz, courant, enfin sans acheminement, sans électricité, sans eau courante, sans égout. En revanche, je n'ai pas l'impression qu'ils soient du tout déconnectés des réseaux Internet, mais de ça, il n'est pas vraiment question.
Ils y sont par leur téléphone voilà. portable, en fait. Ouais. Ils restent...
Mais donc, il va voir des gens...
Et ils sont là parce que la Terre ne vaut rien. Hein.
La Terre ne vaut rien et, au fond, bon, il va voir des gens qui, visiblement, veulent revivre le mythe américain, le mythe du Far West... L'idée qu'ils vont dépendre de personne, qu'ils vont faire eux-mêmes leurs lois, ce qui suppose que donc tout le monde est surarmé et qu'on risque sa vie simplement venir frapper à une porte. Posséder un morceau de terre vierge, il y en a même qui jouent les chercheurs d'or. Et on comprend au fur et à mesure de la lecture qu'au fond, tout ce qui reste à ces hommes et ces femmes pauvres, voire franchement marginaux, c'est au fond, c'est peut-être l'orgueil de rejouer cette mythologie américaine complètement obsolète dans les décombres de la modernité. Mais moi, j'ai eu le sentiment que, d'une certaine façon, Ted Conover, lui aussi, il rejouait une mythologie américaine, c'est-à-dire celle des grands artistes qui ont donné à voir cette misère américaine, les photos de Dorothy Lange pendant la Grande Dépression, le livre de James Agee et Walker Evans, louons maintenant les grands hommes, qui documentait également ses vies de travailleurs très pauvres pendant la Dépression. Il illustre son texte à l'aide de photos dont on voit bien qu'elles font écho. Et d'ailleurs, lui-même ne se prive pas de le souligner, hein, parfois avec une légère ironie. Elles font écho à ses travaux photographiques sur les pauvres des années 30. Et donc, au fond...
Avec quand même une petite différence, c'est que... déjà, il n'a pas la puissance photographique de Walker Evans, c'est sûr, mais il me semble que...
Justement, je trouve qu'il y a une humilité dont vous ne faites pas part. dans le ton aussi, je trouve que, par exemple, son emploi de la première personne, donc son jeu de méthode, on en parlera plus tard, il l'emploie vraiment par souci d'exactitude et il se tourne quand même lui-même souvent en dérision. Je trouve que vous ne vous rendez pas à ça. Enfin, on le sent quand même obstiné, je trouve, à comprendre, à s'immerger, à voir aussi ce qu'il peut avoir de ridicule, lui, avec son mobilhome, à installer sa clôture. Il en a conscience, je pense.
Oui, quand, par exemple, il raconte qu'il est le seul à porter un masque pendant la pandémie de Covid, où à un moment, il voit des gens qui, effectivement, racontent des propos qu'on pourrait juger complotistes. Et il écrit « Je lui réponds que je lis généralement les informations dans le New York Times, ce qui provoque chez eux un échange de regards suggérant que je fais partie de cette caste d'imbéciles dont ils ont entendu parler, mais que jamais ils ne se seraient attendus à rencontrer dans la vraie vie. »
Oui, en ça, il y a un réel déplacement. Je pense que son empathie, elle s'exprime surtout là-dedans. En fait, au moment d'écrire, il se déplace et il voit comment il est vu, comment il pourrait être vu, en tous les cas. Et là, je trouve qu'il y a un... Oui, il échappe à l'orgueil que sa position pourrait induire.
Bah peut-être c'est le moment de l'entendre, Blandine Henkel.
Donc, ce que je vais lire, c'est Zara, donc une nouvelle habitante qui arrive...
Il a mis 3 ans à rencontrer. Il faut voir aussi la durée que quand même il s'ancre vraiment dans le territoire. C'est pour en entendre parler, puis pour la rencontrer. Parce que tous ces gens, il faut imaginer, c'est des caravanes, des mobilhomes ou des petites baraques, mais construites
très
loin,
isolées.
Très isolées les unes des autres. Il ne faut pas imaginer que
tout le monde se
retrouve au café et qu'il suffit de se planter là pour parler avec différentes galeries de personnages.
Donc, il rencontre cette Zara qui vient d'arriver avec ses 6 enfants dans sa voiture et qui est originaire de Chicago. Je viens de passer la frontière du Colorado. On a changé de fuseau horaire et je me dis « Mais c'est quoi ce truc de fou ?» C'était la première fois que je voyais les étoiles d'aussi près. Je croyais que c'était des arbres avec des lumières. Alors je m'arrête et c'était des étoiles. Mais elles étaient tellement près qu'on aurait dit qu'elles bougeaient. Et je me dis « Ça peut pas être des arbres, ça bouge. » Elle appelle le roi, membre du groupe des nationalistes africains qui s'est installé dans la vallée comme un pionnier qui doit l'héberger. Je lui demande et il me dit « Non, c'est des étoiles. Moi qui viens de Chicago, j'ai regardé la même étoile toute ma vie, genre toute ma vie. Et j'avais aucune idée que la Terre pouvait être aussi canon. » Zara cherche une nouvelle vie dédiée à ses idéaux. Elle se considère comme panafricaine. Je suis pour la libération de l'Amérique noire. Écolière dans le South Side de Chicago, Elle a grandi avec l'idée que l'histoire de son peuple a commencé avec sa mise en esclavage. Alors quand elle entend son responsable au Clarion Inn de Michigan City, un homme blanc, lui parler de l'histoire des peuples africains avant l'esclavage en Europe et en Amérique du Nord, elle a un déclic. Et, me dit-elle, je me suis mise en colère. Parce que je me disais, c'est un truc qu'on aurait dû m'apprendre avant. J'étais devant un blanc qui en savait plus que moi sur mon histoire et ma culture. C'était pas normal. Alors j'étais en colère. J'étais en colère contre le gouvernement parce que je me disais, mais c'est des trucs que vous nous cachez exprès. Genre, pourquoi il apprend des trucs dans son école, dans son quartier, alors que ça fait pas partie du programme de nos écoles à nous ? On nous apprend que tout a commencé avec l'esclavage pour nous. C'est ça qu'on croyait quand on était gosse.
C'est un personnage intéressant parce que il ajoute après que son histoire est un ajout inattendu à une histoire de génération d'Américains partis dans l'Ouest dans l'espoir d'une vie meilleure et que la vallée de San Luis, du coup où il se trouve, présente une partie du conservatisme politique de nombreuses régions rurales, mais que c'est entremêlé avec des récits familiaux qui viennent quand même bien d'ailleurs. Et alors qu'on pourrait s'attendre à voir dans cette vallée les white trash et les trumpistes, on a quelques personnages comme cette Zara qui prend ensuite un nom égyptien au nom d'un panafricanisme un peu fantasmé, mais et moi c'est là où quand même
des écologistes
voilà, c'est là où il me semble qu'il y a quand même eu, même si ça s'inscrit évidemment dans la tradition de l'où maintenant les grands hommes, de ces grands reportages sur la pauvreté, c'est qu'il y a aussi vraiment une marginalisation choisie, un mode de vie à l'heure de l'effondrement écologique et du coup une diversité sans doute sociale qui fait que c'est pas simplement le journaliste new-yorkais qui débarque dans la vallée trumpiste reculée et qui, par des moyens éthiquement, des fois, en termes d'éthique journaliste, qu'on pourrait un peu remettre en cause, obtient des paroles abominables. C'est pas du tout ça. Il y a un art du portrait assez généreux.
Oui, et puis il y a une attention vraiment aux détails, parfois aussi qui ne sont pas directement intéressants ni significatifs pour ce que lui pourrait vouloir nous montrer ou nous prouver. Ça, j'ai trouvé ça éthiquement bien, qu'il rende compte. Alors, donc, quand je dis ça, par exemple, il parle de Sugar, le cacatoès abandonné, qui dit en permanence « Allez, viens, gros chien », qui répète ça, ce cacatoès. Il parle d'un cimetière d'animaux, il parle du surnaturel. Alors ça rentre plus dans son propos du surnaturel, des ovnis. Mais il nous montre aussi que les malheureux sont pas, donc je le cite, les malheureux sont pas toujours vertueux. Il montre plein de détails qui ne servent à rien, qui montrent juste des vies dans ce qu'elles ont de plus singulier. Et en ça, c'est pas juste la volonté d'un journaliste qui voudrait, faire, oui, en effet, le portrait des white trash. C'est pas si programmatique que ça ne pourrait l'être. Je trouve que cette humilité dans son écriture rend le livre assez passionnant.
Alors, après avoir défendu effectivement le fait qu'il y avait quand même plus d'humilité et parfois un peu d'autodérision, je vais aller de votre côté, Lise Wagemann. C'est vrai que. Non, mais parce que c'est vrai qu'on le sent hésitant. Et peut-être que d'ailleurs, on sent un peu l'épaisseur, c'est-à-dire qu'à la fois le temps qu'il lui a fallu pour écrire le livre, des fois, je pense qu'il y a différentes strates, différentes couches qui se voient et qui font que. C'est étonnant, à un moment, il est parfois tentant d'imaginer que la vallée de San Luis, peu peuplée et loin des villes, existe hors du temps, hors des actualités, à l'abri du stress de la modernité. Bien sûr, cela tient du fantasme. Un tel lieu n'existe plus aux États-Unis au XXIe siècle. Et puis après, on se demande si c'est pas quand même ça qu'il vient chercher là quand il dit, au risque d'un peu d'exotisme, c'est un monde magnifique, sauvage et mystérieux, un havre pour les presque fauchés. C'est-à-dire que on sent cette tension entre humilité, envie de trouver l'exotisme, elle est là, elle est présente.
Oui, alors... Bon, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que dans le détail du texte, il y a des choses vraiment très belles. Moi, ce personnage de Zara, la suite de son histoire est tout aussi extraordinaire. Elle fait du roller derby, elle finit par tomber amoureuse d'un blanc. Contre son gré, parce qu'il noue sa chaussure exactement comme elle l'aurait fait elle-même. Il y a une photo de deux, ils sont sublimes. Elle est là avec ses six gosses en disant « Moi, je ne peux pas me permettre de m'abandonner à boire de la vodka parce que j'ai six enfants élevés. » Enfin, elle est géniale. Tout de suite, c'est une figure, on l'aime. Il y a plein de moments comme ça dans le livre où on s'attache comme ça à des personnages très singuliers qui sont presque tout de suite « bigger than life ». Mais il y a aussi beaucoup de moments où je me suis dit « J'aurais préféré ». Peut-être que ce soit du vrai journalisme ou de la vraie sociologie, parce qu'il y a énormément de choses qui sont finalement laissées en suspens, en filigrane. Je prends un exemple, c'est la question des drogues. À la fin du livre, Ted Conover rapporte que sa femme lui a trouvé un titre, ce serait « La petite maison dans la prairie avec de la meth », de la méthamphétamine. Mmh. Alors, ce qui est très drôle et à la fois terrible, parce que Au cours du récit, Conover souligne que beaucoup d'habitants cultivent de l'herbe, ce qui est moins dangereux, mais il mentionne régulièrement le fait qu'il manque des dents à une telle ou à un tel, que ça signale sa probable consommation de meth. Mais il ne va jamais vraiment au-delà. Il note aussi que la consommation légale d'opioïdes a pris des proportions faramineuses dans le secteur, avec la bénédiction de l'entreprise qui les produisait, qui n'est pas le laboratoire pour Dieu, hein, il y en a encore d'autres. Mais il n'y a pas d'analyse, de vision d'ensemble, de commentaires politiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi, j'avais besoin qu'on sorte un tout petit peu justement du récit singulier et qu'on me donne un peu un éclairage d'ensemble. Et alors, curieusement, il le fait sur un point. Et enfin, c'est pas curieux, mais je me suis réjouie de ça. Mais il le fait historiquement. C'est-à-dire qu'il raconte comment ces terres ont été conquises petit à petit, gagnées sur le Mexique. Il raconte comment ces terres ont été le produit de ventes frénétiques dans un monde où le capitalisme est roi et où le marketing est inventif, c'est-à-dire en fait prêt à tout jusqu'à la franche arnaque, où il n'y a pas de régulation, ou alors elle est vraiment insignifiante. Mais donc, ça, on a cette recontextualisation-là. Mais en revanche, sur les gens qui vivent au présent-là, au fond, c'est comme si le respect pour eux interdisait d'avoir des considérations plus globales. Et pour moi, il me manque énormément de choses. Ne serait-ce que, par exemple, ils travaillent pour cette association, La Puente. Mais c'est quoi cette association? Elle sort d'où? Elle est financée par qui? C'est quoi son histoire?
Mais il ne peut pas tout faire. Ah, c'est une chaîne aussi.
Il le dit un peu. C'était un refuge pour sans-abri.
D'accord, mais pourquoi ça a un nom espagnol? Enfin, je ne sais pas, moi, je voudrais savoir d'où elle sort. Qui finance ça dans un pays où on sait que la puissance publique est si faible?
C'est à d'autres de s'en emparer. Enfin, je pense qu'il ne peut pas à la fois être sur le terrain, nouer vraiment des relations. Ça prend un temps fou, je pense. Réellement, il faut le mesurer, quoi, pour parler à des gens qui veulent absolument pas parler à des journalistes, qui sont très réticents. Et je pense que ça prend un tout fou et que c'est pas exactement le même exercice, en fait. Lui, là, c'est un exercice de reporter et de récit.
Là où la terre ne vaut rien, de Ted Conover, c'est publié aux éditions du Sous-sol et traduit par Anatole Ponce-Remaud.
L'esprit critique. Mediapart.
On termine cette émission avec un ouvrage plus théorique intitulé « Le troisième continent ou la littérature du réel » publié aux éditions du Seuil. Il est signé de l'historien Yvan Jablonka, auteur de plusieurs best-sellers, notamment « Laetitia ou la fin des hommes » qui avait obtenu le prix Médicis en refaisant l'enquête sur l'assassinat de cette adolescente dans l'ouest de la France, ou « Goldman » paru à la rentrée dernière et consacré au célèbre chanteur. Yvan Jablonka prolonge ici une réflexion initiée notamment dans un ouvrage publié voilà 10 ans, titré « L'histoire est une littérature contemporaine », où il défendait l'idée de concilier sciences sociales et création littéraire, et donc, je le cite, « tenter d'écrire de manière plus libre, plus originale, plus juste, plus réflexive, non pour relâcher la scientificité de la recherche, mais au contraire pour la renforcer ». Alors, on va peut-être pas s'étendre d'emblée sur la forme de ce livre, hein, dont la dénomination est quelque peu usurpée, dans la mesure où il s'agit en réalité d'un recueil d'articles publiés précédemment par Yvan Jablonka, ce qui en rend la lecture extrêmement répétitive. Mais que diriez-vous de ce troisième continent que veut explorer Yvan Jablonka, Blandine Rinkel? Est-ce que c'est une grande découverte ou une grande déconvenue, pour reprendre le titre d'un livre récent de l'historien Romain Bertrand?
Bah si, moi j'aimerais quand même revenir sur la forme, parce que j'ai eu l'impression d'être bernée. Parce que je pensais, j'ai ouvert ce livre en pensant vraiment qu'il s'agissait d'un livre théorique, d'un essai sur ce troisième continent. Et ça m'intéressait beaucoup en réalité. Parce que ça fait, je sais pas, une dizaine d'années que je lis beaucoup de non-fiction, de littérature du réel. Je pense que dans ce podcast, je pense qu'on apprécie ce genre, dont on a mis beaucoup de livres au programme qui participaient de ce genre-là. Donc ça m'intéressait, je me disais, tiens, en effet, comment c'est né, quelles questions ça pose, voilà. Donc je l'ai ouvert et je l'ai commencé en pensant que c'était ça, parce que rien sur la couverture, donc où il est marqué le troisième continent ou la littérature du réel, qui ressemble vraiment à une couverture d'essai assez exigeante, assez...
Dans une bonne collection Traverse, qu'elle a peut-être l'inconvénient d'être dirigée par Yvan Jablonka, qui publie du coup dans sa propre collection.
Ah, je ne savais pas.
Ce qui fait que peut-être le travail d'édition n'a pas été fait comme on aurait pu l'aimer.
Mais en fait, c'est vrai que je m'attendais à un livre conduit avec méthodologie. C'est un mot qui revient beaucoup sous la plume d'Yvan Jablonka dans ses livres, l'importance de la méthodologie. Et j'ai mis un certain temps, en fait, à comprendre qu'il s'agissait d'un agrégat d'articles déjà parus, de postface de ses livres, donc parus dans des revues diverses, donc feuilletons dont on parlait, la NRF, Télérama. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre parce que ce n'est indiqué nulle part. C'est-à-dire que les noms des parties paraissent être des noms de chapitres. On a vraiment l'impression qu'on entre dans une réflexion.
Il y a une phrase
articulée
à la fin de l'introduction qui le laisse suggérer, quoi, voilà.
Ouais, alors après, quand je l'ai repris à nouveau, non pas que je l'ai lu plusieurs fois, mais quand j'ai repris l'introduction, en effet, c'est marqué « Ce recueil propose », mais « Ce recueil propose une nouvelle cartographie des écritures », ça paraît quand même très, très ambitieux. Et en fait, à la fin, il cite toutes les références, voilà, il y a la liste des sources. Et il dit d'ailleurs, pardon pour les redites, s'il y en a, j'ai essayé de les retirer, mais certaines, si elles étaient retirées, nuiraient à la cohérence interne des articles. Mais bon, avant qu'on le comprenne, moi j'ai quand même été peinée par toutes ces redites, parce que parfois, c'est pas juste des redites thématiques, c'est les mêmes phrases, exactement les mêmes phrases qui reviennent. Donc c'est assez étonnant quand on s'attend pas, à ça.
Alors, moi, je voudrais ajouter une chose, parce que je suis complètement d'accord. Du coup, j'étais déçue par cet effet de titre qui fait de la com, comme ça a été le cas, par exemple, pour ce livre qui vient de paraître, d'auto-entretien de Kaoutar Archie et Joseph Andras, qui s'appelle de manière grandiloquente « Littérature et révolution ». Et en fait, ça laisse attendre un essai à deux mains, et en fait, c'est un auto-entretien. Et là, c'est pareil.
Un auto-entretien, oui, ils s'entretiennent l'un l'autre, et à la fin...
De leur œuvre respective. Et là, c'est pareil. Alors, on commence à avoir l'habitude en politique de grandes déclarations qui masquent une absence complète d'action ou un contenu tout à fait différent. Mais on aimerait bien qu'on lance un appel aux éditeurs de maisons sérieuses qu'ils ne prennent pas le même pli, quoi. On ne s'attend pas à ça de leur part. Enfin. Et puis,
ça a marché, on l'a programmé avant de l'avoir lu. Voilà. Hein, parce que alors, le titre nous a séduit.
Comme Blandine, je crois comme vous, Joseph, on peut s'y résigner en se disant, au fond, le titre unifie, ce qui forme un tout un peu disparate, mais qui va permettre de tracer des lignes de force. Mais tout de même, deuxième effet qui se coule, ces textes ont pour particularité de parler, pour l'essentiel, de l'œuvre d'Ivan Jablonka lui-même. Et là, c'est difficile de ne pas ironiser.
Alors, avant d'ironiser, et je vous laisserai ironiser, moi je voudrais quand même savoir, ce titre de Troisième Continent, c'est quoi? C'est juste une troisième voie entre ce qu'il appelle la littérature fiction, où le roman représente le principe de plaisir, et la littérature grise, où la recherche savante incarne le principe de vérité? Ça, c'est un peu, est-ce que ces deux polarités, elles vous semblent avoir du sens?
Alors, pas tout à fait, mais je me suis dit à le lire que peut-être c'était une affaire de génération, donc... Comme Ivan Jablonka insiste pour qu'on situe les choses, je vais les situer. Donc j'ai 32 ans, je crois qu'il en a 50. Et j'ai l'impression que peut-être que des évidences, il y a eu une rupture d'évidence, peut-être. Disons que moi, ça fait 10 ans que je lis et que je critique, que je lis des textes en les analysant. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout grandi avec l'évidence que le roman romanesque était supérieur aux sciences sociales ou était complètement séparé des sciences sociales. Il me semble au contraire aller assez de soi, en fait, que leur rencontre est bénéfique et qu'un romancier qui refuserait de s'intéresser à la sociologie, à la politique, aux sciences humaines en général, accuserait quand même une faiblesse. Ça me semble assez évident. Donc ça m'a étonnée qu'il semble dire qu'il faisait là une rupture d'évidence, en fait.
Mais non, mais...
Oui, il dit qu'il veut réconcilier la recherche en sciences sociales et la création littéraire, et on se demande, mais où est-ce qu'elles ont été fâchées?
Voilà. C'est-à-dire, malgré votre jeune âge, cher
Non, mais je me dis que c'est peut-être que c'est récent, quoi,
mais
en France.
Peut-être, mais... mais quand on lit, par exemple, je cite le livre, « Le mépris pour les écrits du réel, qui n'accéderaient pas à la dignité littéraire, correspond au mépris pour leurs autrices et auteurs dont la parole est jugée indigne d'intérêt, sans valeur, terre à terre. » Bon, dans la mesure où Annie Ernaux a reçu le prix Nobel en 2022, ça donne quand même le sentiment qu'ici, Ivan Jablonka bombe le torse pour défendre une cause qui...
Mais avant Annie Ernaux, c'est vrai que je me suis dit, mais à quel moment a-t-il reçu ce prix Médicis dont il nous parle pour Laetitia ou La fin des hommes? Et c'est en 2016. En 2016, c'est-à-dire un an après le Nobel qui avait été attribué à Svetlana Alexeïevitch,
oui,
qui est vraiment l'écrivaine, oui, de la littérature du réel.
Oui.
Si on... Donc c'est... Oui, ça m'a étonnée, mais je me suis dit peut-être qu'il part d'un... Non, mais peut-être que quand même quand il était jeune, il se... Voilà, il...
Sans
il...
doute.
Il configurait vraiment le roman comme... Comme un continent à part des sciences humaines. Et sans doute que c'est sincère, que dans son cas, il y a eu un effort à faire pour que les deux puissent se rejoindre. Et c'est... Bon, moi, j'ai plus eu l'impression d'accéder à l'histoire de son effort pour que les deux puissent se rejoindre et de sa propre rupture d'évidence. Ça m'a intéressée en ce sens-là, mais ça me paraissait aller soi, en fait, cette affaire de Troisième Continent.
Alors, il écrit un moment pour faire davantage qu'un jeu qui serait du côté de l'écriture littéraire et concilier ça avec les sciences sociales, l'idée c'est de faire de nos histoires de famille, nos autobiographies, nos voix, des collectifs, des voix qui s'insèrent dans des collectifs, genre, classe, politique, génération, institution, qu'elles concernent tout le monde. Est-ce que cette piste qui vise quand même à désamorcer, je dirais, le caractère parfois trop impersonnel des sciences sociales et celui qu'il juge sans doute trop nombriliste d'une forme d'autofiction, vous paraît quand même être une piste, Lise Wagemann?
Mais non, mais c'est pour ça que j'ai envie d'ironiser, parce que c'est quelqu'un dont le travail a compté. Je veux dire, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue, donc pour son travail d'historien, mais aussi l'histoire est une littérature contemporaine pour son travail plus d'essayiste, enfin oui, mais qu'il écrive aussi en tant qu'historien, sont des textes dans lesquels il plaide pour une écriture de l'histoire en première personne. Ce qu'il reformule ici, par exemple, dans les termes suivants, il ne s'agit pas de s'exhiber, mais de faire en sorte que la subjectivité aiguise le raisonnement au lieu de l'émousser. Et ça, ça a vraiment marché. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Je dis
oui,
pas marché.
L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, c'était vraiment un moment historiographique assez important.
Et or là, au fond, on a le sentiment que la bascule s'est inversée. Au lieu d'être un discours savant ancré dans une expérience personnelle, on en vient à avoir le sentiment que le propos vient servir l'édification de l'auteur, qu'il construit son propre cénotaphe de papier, pour reprendre le titre d'un des textes qui figure dans ce recueil.
Alors pas tout au long du recueil quand même. Moi, je dirais que ça commence par ça, mais c'est sans doute un choix de composition maladroit ou inadéquat, mais ça commence par lui étudiant sa propre œuvre, ou voilà, c'est les recueils, enfin les textes parlant de ça. Et je trouve quand même que qu'à mesure on se déplace, moi par exemple, ce qu'il écrit sur Pérec comme chercheur en sciences sociales, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai souligné beaucoup, j'ai appris vraiment des choses. Mais en avançant dans le recueil, par exemple, quand il parle des bienveillantes de Jonathan Little, quand il parle de voilà, c'est la manière dont la fiction et la Shoah, c'est des questions qui ont été très traitées ces dernières années, mais néanmoins, je les trouve articulées de manière intéressante, assez exacte, et sans, en effet, que ce soit encombré par sa propre personne, comme ça l'est un peu au début du recueil.
Bon, à plusieurs reprises, Yvon Jablonka se présente comme, je le cite, « un historien de l'absence qui essaie d'être présent à son siècle et de ce fait ne craint pas de se dire juif, écrivain, féministe ». C'est difficile de lire ça sans ricaner un peu dans son coin, quoi.
Et peut-être un dernier point, c'est que je trouve que, surtout encore une fois dans les premiers textes de ce recueil, Yvon Jablonka déconsidère la fiction. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin de déconsidérer la fiction pour mettre en avant la littérature du réel, en fait. Donc je le cite, « contrairement au romancier, je ne brode pas ». Mes lacunes sont patentes, non colmatées grâce aux rustines de la fiction, ou beaucoup plus loin, contre les romanciers qui professent que la liberté de création donne le droit de dire n'importe quoi. Quel romancier estimable qu'on estime professe que la liberté de création donne le droit de dire n'importe quoi. Et voilà, je pourrais citer d'autres passages dépréciatifs comme ça. Il me semble quand même que c'est amoindrir ce que c'est que de travailler la fiction. C'est pas inventer n'importe quoi. Évidemment que non, mais c'est transposer dans la fiction des questions que la vie, que le monde, que le réel, donc, dans lequel on est nécessairement pris quand on écrit, quand on pense, quand on écrit, quand on imagine, nous pose. Et donc, à mon sens, c'est radicaliser des questions que le réel nous pose, la fiction. C'est pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et il m'a semblé que la fiction n'avait pas besoin d'être méprisée pour défendre ce que, par ailleurs, je souhaite vraiment qu'on défende et qu'on prenne au sérieux aussi la littérature du réel.
Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange de vouloir réconcilier la fiction et les sciences sociales en dévalorisant la fiction d'emblée, enfin, ou en ayant en tout cas une image ultra convenue et assez enfantine.
Oui, inversement, juste du point de vue opposé, hein, quand on lit une déclaration comme une nouvelle définition des sciences sociales, des écrits qui disent la vérité et changent le monde, on peut se dire aussi que cette définition des sciences sociales, elle est un peu courte, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi du vrai, quoi? Et ça, c'est pas des questions qui sont vraiment articulées dans cet ensemble.
Le troisième continent où la littérature du réel s'est publiée aux éditions du Seuil et signé Yvon Jablonka. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beune.